Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Yves pour l'interview sur RDIWA, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc Andiwa. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Doud. Bonjour.
Et bonjour.
Doud, tu es artiste, globetrotter et d'autres choses peut-être dont tu nous parleras. Et aussi artiste de spectacle. Et d'ailleurs, tu nous parleras un peu de ce travail aussi de l'art vivant. L'attirance de l'art pour toi, c'est arrivé très tôt.
Et alors, c'est une histoire un petit peu de longue haleine. Et j'ai toujours, je dessinais beaucoup chez mes grands-parents, plus avec un crayon à papier et une feuille volante. Et puis ensuite, je me suis dirigée pas mal vers la photo parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans des endroits de la planète qui sont très dépeuplés, très naturel, sauvage, et dans lequel il fait bon vivre et on s'y sent bien. Et c'est intéressant, en fait, de pouvoir avoir des clichés qui représentent un peu cette ambiance naturelle. Et puis ensuite, j'aime bien aussi le côté fantastique. Et donc, c'est vrai que là est entrée l'aquarelle. Et l'aquarelle, pour moi, ça a été vraiment quelque chose... un médium qui est super léger, qui permet beaucoup d'imagination. Les couleurs se fondent sans même que toi tu contrôles réellement ce qui se passe, et c'est ça que je trouve assez intéressant dans la peinture. Et du coup, voilà, maintenant j'essaye un peu de mélanger les deux, et ça crée des univers totalement loufoques.
Alors l'eau, c'est quand même un rapport important pour toi, entre ces spectacles, ces navigations aussi, ces phases de navigation, plus les paysages du Chili dont tu as rapporté ces photographies. L'eau, pour toi, ça représente quoi ?
Ouh, c'est une super bonne question. Alors, ça représente beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Ma vie, de manière générale, est un peu comme l'eau, en fait. Elle se transforme. Elle se transforme tout le temps. De certitude solide en connexion liquide. Et puis, des fois, mes pensées s'évaporent et elles condensent mes sentiments. Pour moi, c'est vraiment quelque chose dont on ne peut pas se passer, qu'on ne pense pas vraiment, en fait, mais on ne peut pas vivre sans eau. On peut vivre quelques jours, on peut aussi boire de l'eau d'urine pendant quelques jours, et puis ensuite, quand on n'a plus d'eau, on meurt, en fait. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très important. Et j'ai vu aussi, avec les expositions que j'ai faites sur des régions qui sont glaciaires, qui contiennent beaucoup d'eau potable, en fait. C'est la troisième ressource d'eau potable sur la planète, les glaciers de Patagonie. Et en fait, c'est quelque chose qu'il faut valoriser. Et en fait, l'eau, elle commence dans le caniveau. Donc en fait, à partir du moment où on jette des choses, où d'autres entreprises rejettent des microplastiques, des filtres, et j'en passe, et des meilleurs, parce qu'il y a tellement de choses qui sont rejetées dans la flotte. Il faut penser qu'après, tu les bois dans ton verre, en fait. Ces mêmes choses que tu jettes dans le caniveau. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très beau, qui a une mémoire et qui nous entoure et qui fait qu'on est là et qu'on vit, en fait.
Alors Doud, je t'ai rencontré sur le marché du Di avec ton stand et quelques œuvres exposées. Certaines m'ont accroché le regard, c'est pour ça que je t'ai invité à en parler donc au studio. Notamment ce travail de photographie, hein, de vue du Chili ou au moins d'Amérique du Sud, avec ses montagnes, ses glaciers. Et puis un apport de texte pour toi, qu'est-ce que sont ces textes? C'est l'idée que tu éprouvais lors de ces prises de vue ou...
Alors oui, les textes, mais ça a été une grande bataille pour moi, ces textes en vrai. Mais en fait, moi, j'écris, j'ai des petits carnets, en fait, de tous les jours où j'écris mes pensées. Et c'est vrai que c'est des voyages qui sont au long cours, où on passe... 2 mois en pleine autarcie dans un endroit complètement naturel. Et en fait, c'est vrai que c'est des endroits où on a plus le temps de se recentrer sur soi, sur l'essentiel, sur des choses un peu plus, peut-être moins concrètes sur la vie de tous les jours, mais justement beaucoup plus abstraites, parce qu'il y a, je pense, beaucoup de choses à apprendre de l'abstrait. Et en fait, j'aurais jamais pensé me mettre à nu comme ça, à exposer en fait des choses que j'avais écrites auparavant. Et en fait, quand je l'ai exposé avec ces textes, c'est marrant parce que j'ai pu, comme tu disais, partager avec des gens de tout âge en fait. Et en fait, c'est des choses que j'avais écrites moi personnellement pour ma Leslie future, tu vois. Et en fait, j'ai vu que ça touchait tout le monde, que ça soit homme, femme, de toute ethnie, indifféremment en fait. Et en fait, ça m'a fait comprendre quelque chose d'assez profond, qui est que on partage tous les mêmes sentiments. Toi, tu es en colère, et puis moi, je suis en colère. J'aime comme toi, tu aimes, mais de manière différente, non ? Mais au final, en fait, tous ces sentiments où on pense être tout seul dans notre tête, tout seul dans notre monde, et ben en fait, c'est vraiment loin d'être vrai. Et il y a des gens qui m'achètent des toiles ou des reproductions sur le marché. Et notamment, il y a une dame de Bordeaux qui avait acheté, enfin, qui n'a pas acheté, qui s'est vue offert pour Noël par une amie à elle, une de mes toiles, et qui est venue me dire, mais c'est super léger, puis ça m'inspire, et puis, et moi, me dire que cette dame d'un certain âge, plus âgée que moi, soit intéressée par mes paroles et que ça résonne en elle, en fait. Et ben, ça me fait prendre conscience qu'on est en fait vraiment tous pareils et qu'au final, on a cette sensibilité-là et que ça nous lie, en fait.
Qu'est-ce qui t'a amené au Chili, justement ? Il y avait une attirance pour ce paysage ou le connaissais-tu déjà avant d'y être ?
Alors, c'est intéressant comme question. Bon, j'ai toujours eu un attrait pour le voyage, en fait. Depuis assez petite, on a pas mal bougé avec mes parents. Puis ensuite, à partir du moment où j'ai pu décider pour moi-même, après les études, on va dire, j'ai tout de suite commencé à voyager. C'est vrai que c'est super intéressant de pouvoir connaître d'autres personnes, de pouvoir surtout parler d'autres langues, parce qu'on nous dit beaucoup de choses dans les médias. Mais en fait, c'est tellement plus simple de pouvoir corroborer toi-même les informations, pouvoir parler avec des gens, et ça te fait ouvrir vraiment ton cerveau à d'autres choses. Et puis, j'ai toujours été attirée par des trucs un peu... extrême, entre guillemets, on va dire. Et c'est vrai que c'est des parties de la Terre qui sont intouchées et où il y a, sur les 2000 kilomètres de cette traversée au Chili, on a rencontré un village de 80 habitants. Donc c'est vrai que c'est des endroits qui, pour moi, me mettent des petites paillettes dans les yeux en disant que j'ai la chance de pouvoir découvrir ces endroits-là. venant de la Grande Babylone. On est français, donc on vient d'un pays qui est très peuplé depuis très longtemps. Et donc, du coup, d'avoir la chance de pouvoir expérimenter c'est des paysages décharnés, des paysages très... comme un peu un concert punk, tu vois. C'est-à-dire que le vent crie de manière continue et le froid te tient compagnie tout le long. Mais c'est vrai que c'est au bout de ça que aussi tu trouves... Tu trouves un peu le fond de tes pensées, tu trouves aussi le fond de ton corps, le fond de certaines ressources. Et c'est là aussi où il y a des choses intéressantes qui sortent, en fait.
À la suite de la Patagonie, il a fallu rejoindre la France et pour cela traverser l'Atlantique sur un voilier. Je suppose que vous étiez plusieurs personnes sur ce navire. Vous étiez deux. Et qu'est-ce que l'on éprouve au milieu de cette immensité avec un horizon autour à 360 degrés?
Plein de trucs. Hein. Il n'y a pas qu'une seule émotion qui te traverse, forcément. Mais c'est un très beau pays, le pays de l'eau. Très peu connu et je pense qu'il y a beaucoup de légendes qui circulent sur ce pays-là. Et après, moi, je pense que c'est un pays qui apaise beaucoup. C'est pas toujours apaisant d'être au pays de l'eau, mais c'est intrinsèquement très apaisant pour toi-même parce que tu n'as plus d'endroit où te cacher, donc tu dois être vrai avec toi-même. Et tu es face à la nature qui est omniprésente et tu as d'autres repères, en fait. Donc c'est des repères qui sont lancinants et quotidiens parce que, en fait, tous les jours... c'est un peu la même chose. C'est l'eau et l'eau et l'eau. Bien que tout bouge. Et après, en fait, moi, j'ai beaucoup peint pendant cette traversée. Et ça a été très, très inspirant. Alors, au début, je pensais vraiment un peu comme tout le monde. Oh, mais à part du bleu, ça va être un monochrome de bleu, pas très, très intéressant. Pour personne, mais en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a aussi cette taille en fait où on prend conscience de notre petitesse et aussi de notre grandeur parce que notre seule petite coquille de noix c'est notre seul recueil, c'est là on peut s'appuyer, là on peut se reposer et en même temps, c'est tout petit, tout au milieu de l'eau. On se rend compte qu'on n'est pas seul non plus. Il y a beaucoup d'oiseaux, des oiseaux d'ailleurs qui vivent toute leur vie dans l'eau, qui ont développé des trucs exceptionnels comme des glandes qui arrivent à désaliniser l'eau. Donc, ils n'ont pas besoin de gasoil pour désaliniser l'eau comme nous, tu vois. Et en fait, c'est ça aussi. Moi, c'est un truc de mettre dans des conditions comme ça. En fait, ça me fait réaliser qu'en fait, la nature est tellement bien faite et on aurait tout intérêt à vraiment s'inspirer en fait de cette nature et essayer de fonctionner comme elle. Parce que à l'intérieur de cette nature, tu vois le petit oiseau qui est encore plus petit que le bateau. Au final, il s'en sort très bien et il vit très bien et il vit dans les tempêtes, dans les jours de beau temps et tout ça. Et t'as des belles rencontres. On a rencontré, il y a eu un soir où on a eu la rencontre de 15 oiseaux qui sont venus se poser sur le bateau. Donc c'est vrai, quand t'as pas été tout seul pendant 2 mois et que t'as 15 copains qui viennent, c'est sympa pour parler. Ils ont de la conversation aussi, c'est bien.
Tu connais quel type d'oiseau c'était ?
Les oiseaux, c'était des nodis. C'est des tout petits oiseaux et c'est des... Ouais. Après, il y a... On a croisé beaucoup d'oiseaux. Il y a des albatros. Dans les mers du Sud, il y a beaucoup d'albatros. Des puffins. Il y a vraiment incroyablement d'oiseaux. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas pêcher au début. Et puis ensuite, Les dauphins, les baleines, les tortues, oh là là, mais il y en avait tellement. Il y avait tellement de compagnie au final dans ce pays de l'eau. Et puis, c'est vraiment des endroits de rêve qui permettent beaucoup de s'extraire en fait de notre réalité un peu.
En nocturne, loin de toute pollution lumineuse, le ciel aussi c'était une présence.
Ah oui, c'est magnifique. Non, mais il y a un truc que personnellement j'ai expérimenté du coup pendant cette traversée qui est carrément exceptionnel et que je conseille absolument à tout le monde, à tous les auditeurs d'essayer un jour, c'est les dauphins, en fait. Donc en plein milieu de l'Atlantique, c'est phytoplancton. Et donc en fait, les phytoplanctons, c'est ce qui fait en fait qu'on a de l'air sur Terre. Donc c'est tout petit et on le voit même pas, c'est microscopique, on le voit même pas à l'œil nu. Encore une fois pour souligner que toutes les choses qui sont petites et qui ont l'impression de pas avoir de signifiance en ont une grande, pour nous en tout cas. Et en fait, avec les dauphins qui avancent dans ces phytoplanctons, qui font en fait de la luminescence, en fait, font comme des espèces d'étoiles filantes, en fait, marines. Entre ça et le bateau qui avance, en fait, on a l'impression d'être dans un espèce de rêve à la Miyazaki, tu vois. Et puis à côté, ben, t'as le ciel qui fait un petit peu, qui essaye un peu de faire de l'ombre au spectacle que tu vois dans la mer, quoi. Donc je pense que ça te fait de la compète de beauté. Et en fait, c'était des moments où tu restes subjugué, en fait. Tu reviens à un état d'enfant de 5-6 ans, à peu près, et tu restes pendant 3 heures en train de regarder tes dauphins qui jouent dans l'eau. C'est magique.
La traversée, arriver à Toulon, et puis après, il y a ce spectacle auquel tu participes.
Oui, bah, je suis rentrée il n'y a pas longtemps dans cette compagnie, qui est du coup une compagnie qui fait des spectacles sur l'eau pour rester Île-Utopie. Et oui, donc pour rester dans le contact avec l'eau, c'est vrai que c'est un environnement que j'apprécie vraiment. Et en fait, voilà, donc on fait des spectacles où on a des chars en fait différents. Et là, par exemple, on va faire le carnaval de Venise. Trop contente de participer à cette grande manifestation. C'est vraiment un plaisir pour moi d'aller là-bas. Et on refait le voyage de Marco Polo, en fait. Et donc, c'est super aussi parce que c'est vraiment des personnes qui ont un peu inspiré mes premiers pas, parce que c'est vraiment des gens qui allaient explorer plus à des termes de marchands, disons. Mais c'est vrai que c'est super inspirant quand tu vois des épopées comme eux à l'époque où ils partaient avec des bateaux qui naviguaient sans vraiment de carte, où ils ne savaient pas vraiment où ils allaient. En fait, c'est aussi ça, le voyage, sans aller vraiment très loin. Je trouve que le voyage part quand tu claques la porte de chez toi, globalement. Donc ça peut être ici comme plus loin. Mais c'est vrai que c'est inspirant, des gens qui arrivent à partir comme ça, sans beaucoup d'informations, et se lancer à l'aventure, en fait. Il y a beaucoup de choses à aller chercher là-dedans, je pense.
Cela est toujours possible, hein, à tout endroit même, on peut penser ça. Et cette compagnie, donc, dans laquelle tu interviendras, a des dates plutôt loin d'ici, non ? J'imagine.
Et ben là, en février, on va faire le carnaval de Venise, oui. En février. Et après, ouais, ils font plus de spectacles à la période estivale, printanière estivale.
Peut-être l'occasion d'en reparler, on ne sait jamais, si vous passeriez par ici. Et puis, il y a ces expositions, dont celle auxquelles tu participes aux Galeries du 10, rue Camille Bufferdel, chez Odile. Là, tu exposeras à quelle date, d'ailleurs ?
Alors là, ça sera samedi, Et il y a plein d'artistes qui vont exposer aussi. Il y aura aussi des personnes qui vont lire des textes sur le corps. Et donc, ça va être, oui, un corpus que j'avais commencé sur le corps, parce que notre corps est magnifique, le corps de tout le monde. Et on a tous des possibilités. Et en fait, quand on voit la possibilité, ce qu'on arrive à faire avec une main, avec des yeux, des oreilles, nos pieds qui nous transportent tous les jours là où on veut, mais moi, je trouve ça magnifique.
Dans tes travaux, il y a ces photographies donc, d'Amérique du Sud, de la Patagonie. Il y a des textes aussi. Pour toi, les textes sont de quelles inspirations ?
Alors, mais les textes, c'est bon, principalement des choses qui me passent par la tête et qui passent du coup par la tête de beaucoup de gens, je pense. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup d'inspiration littéraire à lire beaucoup de romans philosophiques, de contes philosophiques, à la Paolo Coelho et des choses comme ça. Et puis là, bah, dernièrement, j'ai vraiment un petit coup de cœur sur un livre qu'a écrit Enrique Cordova, c'est un livre sur qui le titre c'est Moi je suis toi, et en fait je trouve ça vraiment cool en fait de considérer que l'autre est simplement ton miroir, et donc les choses qui te fascinent chez l'autre en général sont des choses que toi tu arrive à véhiculer chez les autres. Et pareillement, quand tu es énervé contre quelque chose d'autre, c'est que peut-être chez toi, il faudrait aussi balayer un petit peu devant ta porte. Et en fait, c'est un livre qui essaye d'une manière un peu plus compliquée d'expliquer ça. Et je pense que c'est très, très intéressant bah, dans la dynamique où on est actuellement dans notre société, de pouvoir s'extraire un petit peu des pensées égocentriques, égocentrées, et de pouvoir considérer l'autre, en fait, comme si c'était moi. Et puis après, ben, aussi beaucoup de livres sur des exploits d'exploration, parce que j'adore les Atrapados en el Hielo, et pour les premières expéditions à l'Antarctique, des lectures aussi comme celle de Jérôme Poncet, qui va décrire des premiers hivernages avec des méthodes très très archaïque, disons, pour maintenant, et d'aller se mettre dans des conditions comme ça et de pouvoir partager, en fait, et faire rêver les autres. En fait, je pense que c'est quelque chose de sympa, en fait, d'inspirer quelqu'un d'autre à faire, à se dépasser soi-même. Et même si c'est pas en faisant une expédition à l'Antarctique, parce que tout le monde n'est pas égal face au désir qu'il a. Mais je pense que c'est super de pouvoir s'inspirer de ces gens qui sont allés avec des moyens moindres que ce qu'on a maintenant. Mais comme j'ai déjà dit, les animaux, par exemple, ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas Google Maps, mais ils s'en sortent vachement mieux que nous.
Voilà. Leslie, ton vrai prénom, donc. Merci beaucoup d'être venue sur RDWorld pour nous parler de tes activités, de ton travail. Est-ce que, pour finir l'émission, tu aurais une proposition musicale pour clore cette émission ?
Je pense que je vais sticker, comme on dit en anglais, à mon premier choix, qui était Hold On Tight To Your Dreams de Electric Light Orchestra. Parce que c'est une musique, ça fait un petit peu cliché, mais c'est une musique qui me lève toujours de mon canapé pour aller faire des choses nouvelles.
D'ailleurs, lors de cette traversée, est-ce qu'il y avait une musique qui vous accompagnait ?
Ah oui, bah après en bateau, oui, il y a beaucoup de musique. Après, moi, j'aime beaucoup la musique argentine, parce que j'ai vécu 5 ans là-bas. Donc j'aime bien Charlie Garcia.
Est-ce qu'il y a une possibilité de connaître tes coordonnées, ou est-ce que tu as une page sur Internet, par exemple, pour découvrir aussi ton travail?
Alors oui, vous pouvez me suivre du coup sur, les réseaux sociaux principalement, sur mon Instagram qui est en construction, mais justement c'est comme ça vous prendrez le train dans le premier arrêt à la première station et on commencera ensemble. Donc c'est Doodings sur Instagram et c'est Leslie avec un Y, Côté, C-O-D-T-E-T, sur Facebook, voilà. Et puis, je suis assez friande de parler, de découvrir d'autres personnes, de pouvoir avoir des connexions avec des gens de tout environ, de tous âges et de toute confession. J'ai pas de problème.
Eh bien, Leslie, je te souhaite une bonne soirée et à bientôt, peut-être.
Ah bah oui, à bientôt avec grand plaisir et merci, merci beaucoup de m'avoir invité pour faire cette interview, c'était très intéressant.